Chapitre 4. Un personnage curieux. Entrez, monsieur, je viens d'apprendre la pénible nouvelle, dit Harry Poldona à l'inspecteur Mansell qui venait de sonner à sa porte. Par qui ? Par Jean Rivière, notre metteur en scène. Je me mets entièrement à votre disposition et je serais fort content si je pouvais, par un renseignement quelconque, faciliter votre tâche. C'est très aimable de votre part. Eh bien, dites-moi, pour commencer, ce que vous faisiez à 1h30 du matin chez Mademoiselle Pommier.
Moi ?
Oui, vous.
Moi ?
Ce simple mot fut prononcé de nouveau avec une telle intonation de surprise qu'on eût pu croire à la sincérité de l'acteur. Mansell en resta un instant interdit. Il regarda son interlocuteur et, tout de suite, il comprit qu'il avait affaire à forte partie. Harry Poldona était le type du bel homme. Grand, fort, le visage basané, on sentait que les complications sentimentales n'avaient pas de secret pour lui. Il vivait dans un intérieur modeste de vieux garçon, où, on le sentait également, il devait bien se garder de faire venir ses conquêtes. Car, alors que sa personne avait fière allure, qu'elle était mise avec la plus raffinée des élégances, le cadre où elle vivait était, lui, vieillot, pauvre, celui presque d'une vieille femme maniaque. Il n'y avait qu'une chambre, et par une porte entr'ouverte, on apercevait un réduit sans fenêtre d'aération qui servait à la fois de cabinet de toilette et de cuisine. Les meubles de l'unique pièce prenaient toute la place. Donna avait sans doute hérité ce modeste intérieur de quelques parents âgés, et par économie, il n'y avait apporté aucun changement.
« Oui, vous !» répliqua l'inspecteur.
« Vous vous trompez ou bien on vous a induit en erreur. Mais asseyez-vous donc, monsieur. »«
Non, merci. Je vous prie de répondre à ma question. »«
Je vais vous répondre, monsieur, mais je vous demanderai d'abord la permission de mettre mon veston. »
Harry Poldona, pour ne pas abîmer ses vêtements, restait en manche de chemise chez lui. Il ne se passait pas de jour qu'il ne s'excusât auprès d'un visiteur.
« Une seconde, disait-il, que je mette mon veston. »
« C'est cela, mettez votre veston, car je vais être obligé de vous demander de me suivre.
Comment ?
À moins que vous ne me donniez des explications satisfaisantes sur l'emploi de votre soirée d'hier.
Très volontiers, je n'ai rien à cacher.
Dans ce cas, inutile de le dire.
Je ne vous parlerai pas de la représentation. Vous en avez eu sans doute les oreilles remplies. À 11h30, je suis donc parti. Comme il était un peu tôt pour entrer chez moi, je me suis rendu aux Rivières, un café de l'avenue Wagram, où l'on me connaît d'ailleurs. J'ai conversé quelques minutes avec la caissière, puis j'ai téléphoné, comme elle pourra vous le dire.
« À qui ?»«
À une femme du monde. »«
Comment s'appelle-t-elle »
Harry Poldona ouvrit de grands yeux étonnés.
« Voyons, monsieur l'inspecteur !»«
Je vous demande le nom de cette personne. »
« Mais, monsieur l'inspecteur, vous semblez ignorer que je suis moi-même homme du monde, un galant homme, et que, même si ma vie était en jeu, je ne déshonorerai jamais une femme qui a placé sa confiance en moi. »«
Je vous en prie, pas de phrase. » »«
Enfin, monsieur, vous-même, vous êtes, je veux le supposer, également un gentleman. Vous vous devez de glisser sur ce point. Vous me comprenez, n'est-ce pas ?»
Donna s'interrompit. Et comme son regard rencontrait celui de l'inspecteur, il cligna finement de l'œil en murmurant comme une confidence
« Elle est mariée !»«
Je ne sais pas si vous vous en rendez très bien compte, dit pourtant l'inspecteur, mais de graves soupçons pèsent sur vous. Si vous refusez de vous justifier, je me verrai dans l'obligation de vous conduire à la police judiciaire. »
« Monsieur, je suis à votre disposition. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. »
« Qu'avez-vous fait après ce coup de téléphone ?»«
J'ai pris le tramway numéro 30 et je suis rentré chez moi. »«
Vous n'êtes pas ressorti ?»«
Pourquoi serais-je rentré dans ce cas ?»«
Pour vous changer. »«
Je ne suis pas ressorti. »
Hector Mansell comprit qu'il n'en tirerait pas davantage sur ce point. Un instant, la pensée de conduire purement et simplement cet étrange personnage dans les locaux de la police judiciaire lui vint à l'esprit. Mais à la réflexion, il lui apparut qu'il valait mieux le laisser en liberté et surveiller ses allées et venues.
Bien. Dites-moi maintenant quelles étaient vos relations avec Mademoiselle Paumier.
Professionnelle, uniquement professionnelle.
Comment l'avez-vous connue?
Il y a plusieurs années. Elle n'était alors que première dans une maison de mode.
Vous aviez avec elle des relations d'amitié?
Oui, à cette époque, mais cela n'a guère duré. Un riche planteur hollandais s'est intéressé à elle. Il était très jaloux. Elle s'est vue tout de suite dans l'obligation de choisir entre lui et moi. J'aime mieux vous dire que, de toute façon, j'étais décidée à rompre.
Pourquoi ?
De nouveau, Harry Paul Donna ouvrit de grands yeux.
Enfin, monsieur, dit-il sur le ton d'une femme avec qui on se permettrait des privautés.
La pauvreté n'empêche pas d'être honnête. Est-ce que vous croyez que je suis un homme à accepter que ma maîtresse se fasse entretenir par un autre ?
Je constate, répliqua Hector Mancel avec ironie, que votre discrétion ne s'applique qu'aux femmes du monde. Quand il s'agit d'une modiste, vous avez moins de scrupules.
Vous oubliez que la pauvre Suzy est morte et qu'en vous dévoilant un passé lointain, je ne risque plus de la compromettre.
D'autant mieux qu'elle n'est plus là pour se défendre. Comment s'appelait le riche planteur ?
Joachim, autant qu'il m'en souvienne.
Joachim comment ?
Je ne sais plus.
A-t-elle continué à le voir à partir du moment où elle est devenue célèbre ?
Je ne crois pas. D'ailleurs, 2 années s'étaient écoulées depuis la rupture.
Par la suite, votre honnêteté ne s'est sans doute pas opposée à ce que vous repreniez vos relations d'antan ?
En effet, je l'ai revue. Elle venait me rendre une petite visite presque chaque jour.
De quoi viviez-vous ?
J'avais des revenus, monsieur. Il ne me permettait pas de faire des excentricités, mais il me permettait de vivre sans rien demander à personne. Ce n'est que tout dernièrement que j'étais obligée de travailler.
Vous avez choisi le cinéma.
C'est une profession honorable.
Vous vous êtes souvenu de votre petite amie de jadis et vous lui avez demandé de vous aider.
Je pouvais le faire, j'apportais mon travail.
Donc, vous me disiez qu'après sa rupture avec le planteur, vous aviez renoué avec Mademoiselle Paumier.
Cela n'a sans doute pas duré.
En effet, j'ai été obligée de m'effacer de nouveau. Un certain Durand, dont les parents avaient relevé le nom par l'original prénom de Charlemagne, s'était pris de Suzy. Comme sa fortune lui permettait de dépenser 700 000 francs par an, j'ai été le premier à conseiller à Suzy de répondre à cet amour.
Et de nouveau, vous l'avez perdu de vue.
Oui, c'était mon devoir.
Charlemagne Durand était-il aussi jaloux que Joachim X ?
Plus jaloux encore.
Je suppose que, quelques mois après, Suzy Paumier vous est revenue ?
Non, tout a été fini entre nous, sentimentalement j'entends, à partir de ce moment.
Que s'est-il donc passé ?
Malgré toute l'amitié que j'avais pour elle, malgré ma bonté, mon esprit de sacrifice, elle ne m'a pas été reconnaissante.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Elle a trompé Charlemagne Durand avec un jeune homme du nom d'Alfred Guérilla, je crois.
Je ne vois pas en quoi elle faisait preuve d'ingratitude.
De nouveau, la stupéfaction se peignit sur les traits de Harry Paul Donna.
Vous ne voyez pas, monsieur ?
Expliquez-vous.
Prendre pour amant un vulgaire danseur alors que je ne songeais qu'à la rendre heureuse, alors que, par 2 fois, je n'ai pas hésité à m'effacer pour lui permettre de se faire une vie à l'abri du besoin, vous trouvez que ce n'est pas de l'ingratitude ?
Cela ne vous a pourtant pas empêché d'avoir recours à elle quand il vous est apparu qu'elle pouvait vous être utile.
C'est vrai, je le reconnais, mais sachez que je me suis adressé à elle comme un étranger et que pas une fois je n'ai fait allusion au passé.
Qui était Alfred Guérilla ?
Je ne l'ai jamais vu, car du jour où j'ai appris qu'elle s'était donnée à cet homme, je me suis replié sur moi-même et j'ai fait en sorte d'éviter tous ceux qui eussent pu m'apprendre quoi que ce fût sur leur vie.
Pour nous résumer, vous ne soupçonnez personne ?
Personne.
Quant au mobile du crime, vous n'en avez aucune idée ?
Si, au contraire. C'est le seul point précisément sur lequel je me suis fait une opinion. À mon avis, ce crime a été commis par un fou.
Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
La similitude de l'assassinat fictif est réelle.
Expliquez-vous, dit Hector Mancel, en feignant de ne pas comprendre ce que voulait dire Harry Poldona.
Comment, vous ne trouvez pas étrange que cette femme qui joue le rôle d'une amoureuse brutalement étranglée dans son bain, soit, quelques heures après, réellement étranglée dans son bain?
En effet, je trouve cela étrange.
Il y eut un silence. Donna, anxieux, regardait l'inspecteur.
Que voulez-vous dire ?
Rien, continuez.
À mon humble avis, cet assassinat ne peut être que la conséquence de la représentation qui l'a précédée.
Et si j'étais à votre place, monsieur l'inspecteur, je chercherais le coupable dans la salle.
Oui, je chercherais le coupable parmi les spectateurs qui se sont signalés le plus par leur excitation, par leur violence, au cours de la présentation du film. C'est certainement l'un d'eux le meurtrier. Il n'est d'ailleurs pas difficile de reconstituer ce qui s'est produit dans l'esprit de ce dernier. Forcément impressionné par le spectacle qui venait de lui être présenté, le coupable, un faible sans doute, par je ne sais quel phénomène psychique, a été amené à vouloir imiter mon geste fatal. Vous n'avez pas vu le film, laissez-moi vous dire que je joue le rôle d'un assassin à merveille, d'une manière hallucinante, pour employer l'expression d'un des critiques les plus importants, Roger Rode. Imaginons donc ce qui s'est passé. Le faible auquel je viens de faire allusion attend Suzy à la sortie de la salle Hébrard. Il la suit, peut-être même lui adresse la parole, lui dit son admiration. Il se peut qu'il soit un familier de la victime, ce qui expliquerait qu'elle l'ait autorisé à venir chez elle. Une fois sur place, il commet son forfait et disparaît. Hector Mancel avait écouté son interlocuteur sans broncher. De temps en temps, il avait porté la main à son front aussi machinalement que le spectateur à la scène émouvante d'une pièce de théâtre. « Vous avez terminé ? » dit-il.
« Oui. »«
Eh bien, au revoir et à bientôt. »
Sur ces mots, Hector Mancel prit son chapeau et sortit. Lorsqu'il fut dans l'escalier, il s'arrêta pour prendre une note, puis, quatre à quatre, il descendit les marches. Tabouret l'attendait devant la porte d'entrée.
« Alors, mon cher, rien de neuf ?»«
Rien, la concierge est sourde. »«
Est-ce qu'elle est aveugle ?»«
Non, la surdité lui suffit. »«
Tiens, prends cette photographie. »
En disant ces mots, Hector Mancel tira de son portefeuille une photographie qu'il avait habilement dérobée chez Pierre Nervray. « Et va la montrer à la concierge. Tu lui demanderas si elle a déjà vu cette personne. » Tabouret obéit. Il revint quelques instants après, avec un sourire éclairant son visage.
« Elle l'a reconnue !»«
C'est bien, nous n'en avons plus pour longtemps. D'ici quelques jours, l'assassin sera arrêté. »«
Tu es merveilleux !» dit Tabouret avec admiration.
« Pas de compliments, tu risquerais de m'amollir.
Arrête un taxi. »«
Où allons-nous ?»«
À Asnières. »«
Pourquoi ?»«
Au studio. » Je veux interroger Rivière, le metteur en scène. J'aimerais savoir également qui est le commanditaire.
Mais d'abord, passons au quai des Orfèvres.
Quelle heure est-il ?
3h30.
Déjà ?
Nous dînerons mieux, voilà tout.